L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. sous une lumière de feu de bois, amène le sol. La musique vient d'un vieil appareil à cassette à terre. Des coupes se roulent à terre pour s'accoupler. Des chiens jappent. Leur visage, sans dents, grisonnant, gile et écoré. Lorsqu'on le voit, ils veulent qu'ils se joignent à eux. Ils se sauvent en courant. Il ne sait où aller. Épuisé, j'arrête dans une rue étroite, sale, qui n'a pas de fêtard. Tout à coup, il voit une foule de jeunes débraillés envahir la rue. Essaye de sortir de la rue, mais ils viennent des deux côtés. Il est coincé. Les jeunes crient, tapent des barres de fer sur les voitures. Des bruits de vitres. Gilles a peur d'être vu. Se cache dans un renfoncement d'allée. Puis les jeunes, entre eux, comme ça, se tapent dessus à coups de barres de fer. Les jeunes tombent à terre. On entend des coups de feu. La rue devient un vrai champ de bataille. Ça se bat, ça crie. On se court après. Des coups de feu, des explosions, des vitres brisées. L'émeute devient tuerie. On dirait que les jeunes se défoulent. Ils semblent heureux de se battre. Ils ne pensent pas qu'eux aussi peuvent être tués. Gilles a très peur et ne bouge pas. Le temps lui semble interminable. Mais que faire? Ne même pas chercher à aider les blessés qui seraient tués. Tout d'un coup, un jeune à un haillon, grand, blond, tête osseuse, barre de fer à la main, le voit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il s'approche de Gilles. Gilles recule, se colle à la porte palière. Elle s'ouvre. Elle ne devait pas être fermée. Vite, il s'engouffre dans l'allée. L'allée sombre. Il court dans l'ombre. Il a l'impression qu'on lui court après. Il ne sait pas. Ses oreilles bourdonnent. Apeuré, il monte. Arrivé à un étage, essoufflé, il tape aux portes. Une porte est ouverte. Une main le prend à l'épaule et le fait entrer. Elle a fermé la porte. Elle est en déshabillé, soit noir. Elle lui dit, vous ne risquez rien. J'y n'en peux plus, essoufflée. D'un coup, elle le reconnaît. Je vous reconnais, vous. Vous êtes celui que j'ai rencontré ce matin. Gilles aussi la reconnaît. C'est Armance. La peur, la fatigue lui fait perdre connaissance. Vite, elle le rattrape, le dépose sur un divan. Une fois allongé, il lui tapote les joues. Il ouvre les yeux, la reconnaît. « Vous allez mieux ?» Il lui répond. « Oui, je crois. » Elle lui dit. « Vous ne craignez plus rien. Vous êtes chez moi. Ils me connaissent. Je suis Armance. Et vous, Gilles ?»« Soyez le bienvenu chez moi, Gilles. Merci. » Elle lui dit. « Ne me remerciez pas. Je suis comme ça. J'aime toujours les gens. Et puis, j'amène les oiseaux blessés chez moi. C'est mon côté fleur bleue. J'aime pas voir souffrir les gens. Non, j'aime pas voir souffrir les gens. Il lui dit, vous êtes bonne. Elle lui dit, moi, bonne? Non, je suis humaine. Et puis, vivante, bien vivante. La folie, ambiance, ne me touche pas. Peut-être parce que je suis trop simple. Moi, j'aime le vrai, les vraies fleurs. Un coin de Paris, pittoresque. J'ai toujours vécu ici. Et j'aime mon Paris. Les gens simples. Pas ça, non. Ma boulangère, les enfants qui jouent dans le ruisseau, le laitier, ça, oui. Elle hausse les épaules. Le Paris qui a disparu, quoi. J'aime bien rendre service pour me sentir vivante. C'est étrange. Les personnes à qui vous ressembliez, je l'ai hébergé plus d'une fois parce qu'ils ne savaient pas où aller. Ou était poursuivi par les autres. Je lui demande, qui était-ce? Elle lui dit, il n'existe plus. Enfin, il a tellement changé qu'il n'est plus. Je lui demande, parlez-moi de lui. Elle lui dit, à quoi bon? À quoi bon? Et puis, comme si vous ne saviez pas qui il est. Non, je vous assure. Vous venez d'où? Vous devenez d'où pour ne pas savoir que vous ressembliez à lui, le roi. À notre époque, un roi, c'est stupide. Pourquoi un roi? Ils l'ont, le roi. Et on voit où ça nous mène. Gilles baille et il dit, je parle et vous avez faim. Si vous préparez quelque chose, une omelette. Ce sera drôle de donner à manger une omelette à un oiseau blessé. Elle rit. Il reste allongé. Il la voit aller à son coin de cuisine préparer l'omelette. tout en préparant le repas, elle lui dit « Vous avez la chance qu'il me reste quelque chose, des œufs. La vie est dure. L'autre, Jean-François, lui aussi venait et j'étais obligé, c'est de lui donner un repas. Obligé, parce qu'il était affamé. Maintenant, c'est le contraire. Il a tout ce qu'il lui faut. Et pourtant, il ne m'invite pas. Même pas pour partager un morceau de pain. Non, rien. » Elle lui apporte son omelette. Le lui tend. « Tenez. Merci. Attention, c'est chaud. C'est tout simple. Je n'ai rien pu y mettre. » Gilles la trouve délicieuse. « Elle est très bonne, merci. » Elle lui dit. « C'est si simple. » Une fois qu'elle est finie, elle prend l'assiette, va la mettre à l'évier et revient. Elle lui dit « Bon, et bien maintenant il faut dormir. Vous dormirez ici. J'ai pas de chambre d'amis. Vous coucherez sur le divan avec une couverture. » Elle ouvre une armoire. Tenez, prenez-la. Merci. Bonne nuit, mon ange. Et elle quitte la pièce. Elle a fermé la lumière en quittant la pièce. Épuisée, il s'endort, enroulé dans sa couverture. Rêve de visage, grimace, de tuerie. Lorsqu'il se réveille, il est dans le noir, se demande où il est, puis se souvient, Armance, la bonne Armance, reste allongé sans bouger un moment. Puis, il entend du bruit. La porte s'ouvre, elle est claire. Lui demande « Bien dormi ?» Il lui dit « Oui. » Elle ouvre les volets. Enfin, la lumière. La pièce baigne de lumière. Lumière de Paris. Elle lui dit si vous voulez vous nettoyer, la salle d'eau est à côté de ma chambre. Merci. Il se lève. Et entre dans la salle de bain. Dans la salle d'eau, plutôt. Il sent le parfum bon marché. Et le savon de Marseille. Une fois lavé, il va la retrouver dans le séjour. Elle le voit et lui dit vous êtes mignon, tout propre, un vrai bébé. Lui donne un baiser sur la joue. Il a un réflexe de retenue. Elle lui demande « Tu n'aimes pas les femmes ? Ou tu as peur ?» Il lui dit « Ce n'est pas ça. Je suis prête. » Elle fait « Ah, soupire, lui dit. Vous vous cachez ?
Oui.
Elle lui dit, les prêtres, on les prend, on les fusille. À Paris, on le sait ?
Non, je viens d'arriver.
Bien, ne le dites à personne, parce que moi aussi je risque d'être fusillé. Elle soupire et dit,
bon, aucune importance, prêtre ou pas, tu es un oiseau blessé.
Oui, tu es un oiseau blessé.
Je n'ai rien pour le petit déjeuner. Je m'habille et on y va.
Ils sont obligés, c'est de faire la queue. Oui, ils sont obligés, c'est de faire la queue pour acheter du lait et du pain. Elle lui dit que les denrées alimentaires sont rares à cause de la sécheresse, que seule la France du Nord fournit de la marchandise. Elle lui dit qu'il sait, il a vu les campagnes désertiques ou sous l'eau. Oui, les campagnes désertiques, sans eau ou inondées. Puis, ils ont pris leur petit déjeuner. Elle lui dit que s'il veut, il peut rester chez elle. Il lui dit que ce ne serait pas bien, étant donné qu'il n'a pas de travail. Elle lui dit qu'elle, elle travaille.
Alors, reviens quand tu veux ou quand tu as trouvé du travail.
Merci, et il la quitte. Se trouve à la rue, ne sachant comment trouver du travail. Retrouve Henri, le garçon, qu'il a vu entrer à Paris. Henri le reconnaît, lui demande.
Ça va ?
Je lui dis, je cherche du travail. Le gamin lui dit que lui décharge des camions pour les marchés. Gilles va avec lui. Il l'aide, mais reçoit comme salaire que des fruits et légumes. Et encore, en mauvais état, mauvaise qualité, mais tout de même mangeable. Ne sait quoi en faire de ce qu'on lui a donné. Le gamin lui dit, ça ne se mange pas cru. Alors on décide, c'est d'aller chez Armance. Elle est surprise et heureuse de les revoir. Demande à Gilles,
tu as enfin trouvé du travail ?
Gilles lui dit oui. Mais c'était juste pour aujourd'hui. Les marchés ne se font qu'une fois par semaine.
Et on travaille
pour être payé, si on peut appeler comme ça, en nature.
Ça ne se mange pas cru.
Il lui montre et lui dit, je vous chauffe ça. Elle prépare le repas et il mange joyeusement. C'est malgré tout bon. Pour les fruits, ils enlèvent ce qui est abîmé et les mangent comme ça. Ça les fait rire et ils passent un bon moment. Puis ils se quittent. Elle retourne à son travail. Elle fait la plonge dans un petit restaurant. La rue, toujours le vent, ce vent qui ne s'arrête jamais. Gilles cherche toujours du travail. Il trouve chez un quincaillier pour faire le magasinier. Le garçon est prêt aussi pour aider, déchirer les cartons, balayer, ranger. Ils sont contents tous les deux. On les paye à la semaine et ils risquent d'être à la rue du jour au lendemain, sans préavis, mais ne pensent pas à ça. Le problème du logement se pose. Gilles ne peut pas passer ses nuits dehors, c'est dangereux. Le gamin lui dit qu'il a trouvé un grenier pour dormir. Il y emmène Gilles. Gilles trouve la chose convenable et accepte de coucher dans le grenier sur de vieux vêtements. Il a le travail, le logement, c'est essentiel pour vivre. Lorsqu'il ne travaille pas, Henri lui fait visiter, que midi, Paris a beau être en ruine, il reste Paris. Il lui montre les monuments, les rues, etc. Bien sûr, c'est sale, dégradé, mais il en reste toujours des endroits qui sont beaux. Il lui montre la rue Saint-Dominique, l'Élysée, où se trouve ce conde roi. Gilles se sent mal à l'aise parce qu'il se dit qu'il est peut-être son frère jumeau. Il demande à Henri : est-ce que je ressemble vraiment au roi ? Le garçon lui dit « Oui et non, parce que ton regard est plus pur. » L'autre a l'air d'un démon et il rit. Gilles se dit qu'il ne doit pas beaucoup lui ressembler. Il retourne vers Armance, lui dit qu'ils ont trouvé du travail et un lieu. Elle est heureuse pour eux, décide de fêter ça avec de la mie de pain des restes de fruits qu'elle coupe en petits morceaux, un peu de lait. Elle fait un délicieux gâteau de pain. Le rhum est remplacé par de l'eau sucrée. C'est très bon. Henri dit qu'il a toujours traîné dans les rues, que ses vieux l'ont vite mis à la porte pour qu'il se débrouille seul. Il ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Armand lui dit que pour elle, c'est la même chose. Et puis, c'est tout aussi bien comme ça. On apprend plutôt à vivre sa vie. Je ne me plains pas. La vie n'est pas facile, mais il y en a d'autres qui sont encore plus malheureux que moi. Comme le temps a passé vite, ils ne peuvent sortir pour rentrer chez eux. C'est trop dangereux la nuit. Alors, ils couchent tous les trois ensemble. Enfin, pas avec Armance. Le lendemain, il la quitte pour aller travailler. Des jours passent.
Jean-François est seul dans son palais. Il se demande comment se fait-il qu'il ait tant changé. Qu'avant il avait d'autres goûts, désirs. Pourtant, pourquoi a-t-il si besoin de faire le mal? Pourquoi? Parce que c'est le mal qu'il fait. Ce n'est pas de sa faute. Il n'y peut rien. C'est comme si un autre lui avait pris sa place. Un autre lui-même lui avait pris sa place. Les quelques moments de lucidité lui montrent les aurores de sa politique, mais il ne peut en changer. Son soi l'en empêche, mais il regrette le temps où il était bon et simple. Est-ce l'ivresse du pouvoir qui l'a rendu comme ça? Pourtant d'autres ont eu le pouvoir et n'ont pas été ce que lui a été. Puis, il se dit que toutes ses pensées sont dues à un instant de mélancolie, que c'est drôle de chercher à dominer l'homme pour avoir son âme, de le dégrader. Et puis, c'est pas sa faute si l'homme se laisse si facilement guider vers sa dégradation et la débauche. Cela prouve qu'il n'est pas bon, qu'il recherche ça, qu'il en a besoin. C'est l'homme qui vient à moi et qui se laisse guider par moi. C'est parce qu'il le veut, le désire vraiment. Moi, si je ne fais que rendre réel leur souhait, le mêlait et méchant par nature. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait à la nature. Il l'a tué. L'homme est égoïste. Il se prend pour le maître du monde. Si on lui demandait de faire des sacrifices pour refaire ressusciter la nature et même son prochain, il le refuserait. L'homme ne pense qu'à son ivresse. Oui, l'ivresse de ses plaisirs. Il ne mérite pas d'autre personne que moi pour le guider vers ce qu'il désire. Le plaisir sans borne. La paresse, la luxure, ne pas penser, se laisser guider par un maître qui le guiderait vers ce qu'il souhaite et leur dirait, après nous le déluge, alors il faut en profiter à fond, puis... Plus de contraintes morales, religieuses, lois, non, le plaisir à l'état pur. Faites-vous plaisir, rien de plus. Jean-François se dit, je suis ce qu'ils veulent que je sois. S'ils voulaient pas, je ne pourrais pas. C'est eux qui font ce que je suis et ça leur plaît. Je vais au-devant de leurs souhaits, rien de plus. Je sais que ça va les mener à leur perte, mais tant pis, ce sont eux qui ont choisi cette politique. Gilles décide, un jour, c'est de s'approcher du chantier des nouvelles villes. Il y a Palin-Henri qui lui dit, c'est trop dangereux. Et si un garde te voit, tu vas te faire prendre. On va te fusiller de suite. Il y va tout de même. Henri le guide. Sorte de Paris. Au fur et à mesure qu'ils approchent, il y a de plus en plus de camions et de gardes. Le chantier est entouré de barbelés, de miradors, de policiers. Même à l'extérieur du chantier, c'est une vraie fournaise. Il s'en retourne. Mais Gilles et Henri décident de faire quelque chose pour aider Pierre. Il retourne seul, mais fait très attention. Il est surpris par un homme habillé en garde qui le poursuit, le rattrape. L'homme l'éloigne du chantier. L'homme a très peur. L'homme lui dit qu'il ne peut pas rentrer là. C'est Georges. Il lui dit qu'il est là pour le surveiller. Qu'il savait qu'il allait venir près du chantier. C'est pour le protéger, lui. Il est là et il a des hommes. Mais il dit à Gilles qu'il doit s'éloigner du chantier. Gilles lui dit, je vais sortir Pierre. Georges lui dit, pourquoi? C'est trop risqué. Vous risquez la mort. Je veux la risquer. Non, vous n'avez pas le droit. Vous nous êtes trop précieux. Gilles lui dit, Pierre m'est précieux. Georges lui dit, Pierre, ce n'est rien. Vous, c'est autre chose. Non. S'il lui dit, demande. Alors, il faut sacrifier Pierre? Oui. Si c'est pour vous protéger. Pourquoi moi? Il y a tellement de gens à protéger. Parce que vous êtes le jumeau de Jean-François et que vous devez le remplacer. S'il lui dit, mais c'est de la folie. Je ne suis rien. Et qui vous dit que je ne ferai pas mieux que lui? Vous serez des conseillers. Vous ne régnerez pas seul. Je ne veux pas le remplacer. Je veux être moi-même. Débrouillez-vous avec lui. Georges lui dit, vous pouvez pas nous laisser. Votre destin est de nous aider. Il y a des milliers d'âmes à sauver. Oui, des milliers d'âmes à sauver. Je lui dis, seul Dieu le peut. Georges lui dit, avec votre aide. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il n'a besoin de personne. Dieu a besoin des hommes. Sauf si les hommes ont choisi un autre chemin. Non, je ne veux pas. Et je veux sauver Pierre. Georges lui dit, vous préférez sauver une seule personne alors que vous pourriez en sauver des milliers. S'il lui dit, sauvez-les. Pour ça, il faut détruire Jean-François. Eh bien, faites-le. Il le faut. Mais on ne peut pas le faire. Il ne faut pas qu'on le sache. Donc, il faut que ce soit une personne qui prenne sa place et que l'on ne voit pas que c'est lui. Oui, moi, si je change de politique, ils vont comprendre que je ne suis pas le même. Non, parce que vous lui ressemblez. Cherchez un autre sosie. Il n'y en a pas. Faites faire une chirurgie esthétique à quelqu'un. C'est impossible. Il faut c'est que ça se fasse de suite, plus vite possible. Il a déjà fait beaucoup de mal. Ma décision est prise. Je veux sortir Pierre. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Alors je lui dis, si, par la force, rentrez chez vous. Gilles s'en retourne, il est triste, mais se jure qu'il reviendra. Georges dit à lui, chez lui, ça va être très difficile. Il refuse de coopérer. À moins. Non, on ne peut pas lui demander ça. À cause de Pierre, lui demande. Qui est ce Pierre? Un jeune qu'il a recueilli. Rien de plus, lui demande. Et si on l'élimine, Pierre? Georges lui dit, il sera encore plus réticent. Mais si on lui dit que c'est Jean-François qui l'a fait mourir, peut-être aura-t-il de la haine contre son frère et voudra mieux nous aider. Georges lui dit, oui, mais c'est un prêtre. Et un prêtre la haine. Il ne doit même pas connaître le péché. Lui lui dit, un prêtre, voilà qui est ennuyeux pour nous. Mais il ne peut pas exercer sa prêtrise, c'est interdit. Cette interdiction ne lui fait rien. Alors je lui dis, non, il vit normalement. Drôle de personnage. Bon. Que faisons-nous de Pierre? Georges lui dit, si l'on élimine Pierre, attention aux effets, s'il apprend que c'est nous qui l'avons fait. Il ne pourra jamais le savoir. Georges lui dit, et comment? Oui. Mais il saura que Pierre est mort. et ceux qui l'ont tué peuvent parler. On n'est jamais sûr avec les gens. Et puis, comment faire? En infiltrant des gens dans le chantier, des gens à nous. Ils risquent de se faire prendre. Et puis, comment protéger Pierre? Et si on n'arrive pas à le protéger, qu'il se fait tuer, là, on risque, c'est que l'autre puisse nous en vouloir. Lui réfléchit, dit, je vais bien réfléchir à tout ça. En attendant, surveillons notre remplaçant. Vous savez où il habite? Georges lui dit, non, mais je vais le savoir. De suite, on le fait suivre. Gilles retourne au grenier où se trouve Henri. Le gamin lui demande s'il a pu faire quelque chose. Non, je t'avais bien dit que c'était bien gardé. Gilles lui dit, j'ai été arrêté par un garde, mais quelqu'un qui me veut du bien. Le gamin lui dit, c'est bien ça, tu as trouvé de l'aide? Non, il veut m'empêcher que je sauve Pierre, et il surveille pour m'en empêcher. Que comptes-tu faire? Continuer? Réfléchir? Comment je pourrais faire pour sauver Pierre? Je ne veux pas que Pierre meure là-bas. Méfie-toi, je me méfierai. L'on détruit les églises, jette à terre les crucifix. À la place, l'on bâtit banque, magasin, discothèque, fumerie, etc. Il y a des lieux de détente, psychologiques, bidons, pour décontracter les gens. Et on leur dit d'être eux-mêmes, de faire ce qu'ils ont envie de faire, de se laisser aller. Ils doivent dire leurs fantasmes, les mimer. Ils ne doivent pas avoir peur d'être soi. Se laisser aller, plus aucun interdit ni moral, être un être libre. La jeunesse est la clé de tout. Rester jeune, ne pas vieillir. Produits de beauté, massage, gym, chirurgie esthétique. Toujours rester jeune pour faire ce que l'on veut. La peur du vieux, du lait. La chasse aux vieux. On les écarte. On les met dans des lieux de fin de vie. Vieux, ce sont ceux qui ne peuvent plus être jeunes. Dans les écoles, on apprend ce que on veut qu'il apprenne. C'est la politique sans ébauche du moindre effort, même celui d'aider sa famille. On abandonne sa famille pour vivre seul et continuer son adolescence. Dans les écoles, on leur apprend le moindre effort. L'adolescence est le temps du diable. Les nerfs, les désirs sont à fleur de peau, l'émotion aussi. L'on crie, l'on rit pour en rien. L'on pleure aussi, on se met en colère pour en rien. L'adolescent ne peut dominer son corps ni son âme. Il est maniable et le diable le sait. Le diable au corps est une bonne expression. C'est pour ça que la société allonge par sa façon d'être et son éducation. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.